Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Pour bien démarrer cette semaine, pour vous éclairer, vous informer, il est bien sûr dans ce studio avec moi tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Ça va vous aujourd'hui?
Comme un lundi, ça va plutôt...
Je crois qu'il y a un match qui vous a contrarié hier soir, mais ça va aller.
Vous m'avez fait une mauvaise blague, vous m'avez glissé une feuille avec... Le truc de l'Olympique de Marseille, le truc, je sais pas ce que c'est, ça se paiera, ça se paiera, c'était
bien.
Pas drôle.
Allez, au menu aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la magie de la digestion. C'est le titre d'ailleurs du livre de notre invitée, le docteur Kaïna Oussidik, elle est biochimiste alimentaire. Et selon elle, si on a souvent mal au ventre, si on est ballonné, et même si on n'arrive pas à perdre du poids malgré les régimes, c'est à cause d'une mauvaise connaissance de notre système digestif. Elle va donc nous révéler le secret des combinaisons alimentaires qui améliorent la digestion et permettent même de maigrir. Vous verrez, aucun aliment n'est interdit, il faut juste savoir bien les associer. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Un sujet de rentrée, un sujet d'inquiétude des parents, les poux. Avec la rentrée, ils reviennent vite envahir les têtes des enfants. Alors, savez-vous comment s'en débarrasser efficacement? Comment les éviter? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à la question d'un jeune homme qui se demande s'il est vraiment amoureux de son compagnon.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va écouter la première, c'est la question de Coralie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai croisé un copain dans un dîner il y a 4 jours qui vient de me prévenir qu'il était positif. Je suis un peu inquiète, est-ce que je dois me faire tester? Et si oui, d'ailleurs, quand est-ce qu'il faut que je le fasse pour être sûre à 100% du résultat? Voilà, en attendant, est-ce que je peux aller bosser? Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, au revoir.
Bon Jimmy, une question, je crois qu'on va tous peut-être malheureusement être amenés à se poser un de ces jours vu l'évolution de l'épidémie, alors à moins de ne pas trop justement faire de repas entre les amis, etc. Mais la situation qui est décrite par cette auditrice, est-ce qu'effectivement un test est requis pour elle?
Bah oui, tout simplement, il n'y a aucun doute, hein. Elle est en contact avec une personne malade, elle a passé un temps certain dans un milieu clos, sans
un dîner,
exactement,
sans masque.
Et donc c'est les circonstances dans lesquelles on voit des gens tomber malades et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention, non pas qu'on s'arrête de vivre, mais se dire qu'on fait attention au travail, on fait attention toute la semaine et c'est vrai que par moment, en fin de semaine, on a tendance à vouloir se relâcher. Et c'est dans ces moments-là que les gens tombent malades. Les réunions entre
amis... C'est ce que vous voyez en consultation, vous, les gens qui sont malades, ils ont été contaminés comme ça?
Parce que désormais, on met le masque même pour aller chercher sa baguette. Et donc, forcément, on ne tombe pas malade quand on va chercher une baguette avec ou sans masque, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, lorsqu'on va dans des mariages, dans des anniversaires, des réunions, des dîners, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade. Donc, essayez de faire attention, mais oui, elle fait partie de ce qu'on appelle un cas contact.
C'est donc un cas contact. Dans ce cas-là, donc, elle se fait tester. Sa question, c'était quand, pour être sûr que ce soit 100% efficace?
Alors déjà, il faut rappeler ce que c'est qu'un cas contact. C'est lorsque vous partagez un moment à moins de 1 mètre,
au moins 15 minutes, je crois.
Ça dépend, il y a deux critères. Moins d'un mètre, en face à face, quelle que soit la durée du contact. C'est-à-dire que même une conversation avec un collègue de bureau à moins d'un mètre, dans un lieu clos évidemment, fait de vous un cas contact. Ou alors, si ça durait plus que 15 minutes dans un endroit confiné, comme une salle de bureau, une salle de réunion, dans ces cas-là, on est tous cas contact. Si on a passé plus de 15 minutes, et évidemment, tous les membres du foyer, par définition, sont des cas contact.
D'ailleurs, là, pour les parents qui sont scolarisés, enfin d'enfants scolarisés, ça va vite devenir un casse-tête de savoir si son enfant a peut-être le Covid ou pas, s'il y a un cas dans la classe. En plus, il y a les rhumes qui commencent, enfin surtout dans les petites sections, en tout cas, on va dire les enfants les plus jeunes. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents en ce moment? Leurs enfants vont être malades, forcément.
C'est l'anarchie, il faut dire ce qu'il y a. Nous ne sommes que le 14 septembre. Alors, il faut rappeler que le cas contact, lorsque vous faites partie de ces personnes à risque, eh bien, il faut faire un test une semaine après. Pour les enfants, la Société française de pédiatrie dit qu'avant 6 ans, si l'enfant juste a le nez qui coule et qui tousse, c'est aucune éviction scolaire, on ne fait pas de test. On fait un test après 6 ans, si jamais ils ont de la fièvre, qu'ils toussent ou des signes digestifs, et que le médecin n'a pas de diagnostic évident, s'il n'a pas une angine évidente, s'il n'a pas une gastro-entérite évidente ou une infection urinaire, là on est obligé de se faire tester. Vivement les tests salivaires qui permettraient enfin de vivre un peu normalement et surtout d'aller à la chasse à ces personnes malades.
Merci Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est la question d'Alexandra.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Alors moi j'utilise comme moyen de contraception la pilule depuis une dizaine d'années à peu près, sauf que je voulais arrêter de prendre des hormones et j'ai entendu parler de la méthode de contraception naturelle, notamment la température ou la méthode Ogino. Je voulais avoir l'avis du docteur Jimmy Mohamed sur la question. Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Bon, moi je m'attends un peu à votre réponse Jimmy, méthode naturelle de contraception.
C'est pas terrible en termes d'efficacité. Alors après, c'est pour
c'est
le
meilleur moyen de tomber enceinte, non?
Je pense que c'est un bon moyen de tomber enceinte. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle un indice de perles, c'est-à-dire le nombre de grossesses qui apparaît lorsqu'on soumet à une contraception, quelle qu'elle soit. Si jamais vous pratiquez le retrait, c'est-à-dire bon bah vous
avant éjaculation,
avant éjaculation, ouais. Eh bien c'est une efficacité de 78%, ça veut dire quand même que vous avez 22% de risque d'avoir une grossesse. Et puis pour ce qui concerne l'abstinence au moment de l'ovulation, c'est une efficacité de 75%, donc un échec de 25% à titre de comparaison. Le stérilet, c'est 99% d'efficacité, donc à mon avis c'est le meilleur moyen de tomber enceinte.
Cette jeune dame, elle dit donc elle veut arrêter la pilule parce qu'elle a pris des hormones pendant trop d'années. Est-ce que c'est pertinent, pas, on peut prendre la pilule pendant 20 ans, c'est pas grave?
Les chiffres sont un peu particuliers. On sait que lorsque vous prenez la pilule combinée œstrogène et progestérone, plus de 10 ans, vous augmentez légèrement votre risque de cancer du sein. Au-delà de 5 ans, c'est le cancer de l'utérus qui augmente un petit peu. Mais à côté de ça, une cohorte de patientes a montré que plus de 10 ans de traitement avec une pilule diminue un petit peu le cancer des ovaires.
Bon.
Donc il faut réévaluer ça. Et en tout cas, il n'y a pas de bonne façon de contraception. De bon moyen, c'est celui que vous voulez. Il est possible aussi de mettre un stérilet, même si vous n'avez pas eu d'enfant.
Ah oui, même si on n'a jamais
jeune
eu d'enfant.
Jeune femme à 20 ans peut mettre un stérilet.
C'est la pas encore assez connu ça.
C'est pas connu, mais la contraception, c'est celle que vous devez choisir. Et les sages-femmes le font. Ça coûte 25-30 € et c'est remboursé par la Sécurité sociale.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Alexandra, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Kaïna Oussedik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc docteur en biochimie moléculaire et alimentaire et l'auteur du livre La magie de la digestion qui vient de sortir chez Interédition, que vous avez écrit avec le docteur Karim Ferry. Justement, pour bien comprendre de quoi on va parler avec vous, peut-être un mot sur votre métier, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se demandent ce que ça veut dire biochimiste moléculaire et alimentaire. C'est quoi la biochimie alimentaire, en tout cas?
Alors, la biochimie, dans un premier temps, c'est l'étude des réactions chimiques au sein des êtres vivants. La biochimie alimentaire, c'est cette étude de ces réactions chimiques dans nos petites cellules au cours de nos digestions. Donc, on essaye de voir un petit peu les aliments que vous mangez, ils sont de quelle nature, et on essaye de vous expliquer comment ces aliments se transforment dans votre tube digestif.
Jimmy ?
Parce que justement, on a une mauvaise connaissance de comment fonctionne notre tube digestif. On comprend qu'on mange, ça va dans l'estomac, puis c'est digéré, puis bon, bah, on va aux toilettes.
Ça sort, là.
Alors que c'est peut-être plus compliqué que ça et que la clé du problème est là ?
Exactement. On a beaucoup transformé notre alimentation, on l'a beaucoup modifié. Ça, c'est un premier point que les gens ne prennent pas suffisamment en compte. Alors, on nous dit toujours, moi j'entends toujours au cabinet me dire « Oui, mais Kaïna, moi j'ai un tube digestif primitif, il digère tout, il est capable de tout digérer. » Non, l'homme cro-magnon ne mangeait pas 10-15 aliments dans son assiette à un repas. L'homme cro-magnon mangeait à peine un ou deux aliments. Donc, on ne se posait pas la question de combiner plusieurs aliments.
Là, mais on a toujours le tube digestif de cro-magnon, par contre.
On a le tube digestif de cro-magnon, on a la même anatomie que cro-magnon.
Il n'a pas évolué de ce côté-là.
Voilà. Par contre, ce qui le peuple, ce qu'on appelle la flore, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, lui a énormément évolué.
Et pas dans le bon sens.
Et voilà, c'est les bactéries d'aujourd'hui qui peuplent notre tube digestif ne sont plus les bactéries de cro-magnon.
Jimmy ?
Parce que justement, qu'est-ce qui se passe quand on mange des aliments que vous appelez des aliens ?
Eh oui, les aliens alimentaires, c'est tous ces aliments transformés. Par exemple, la galette de riz soufflée n'existe pas dans nos champs. La farine blanche avec laquelle on fait les pains ou on fait les pâtes...
La pâte à tartiner que j'adore, elle n'existe pas non plus dans les champs.
Elle n'existe pas dans les champs. Et donc, en réalité, ce qu'on a aussi oublié, c'est essayant de consommer les aliments bruts, ce qui vient de notre environnement. Si on consomme du pain, essayant de le consommer complet, pas transformé. Si on consomme du riz, essayant de consommer du riz noir, du riz rouge, du riz complet... La même chose pour les pâtes. Essayons de revenir déjà à des aliments bruts et pas transformés. Pour moi, tout ce qui est transformé, c'est ce que j'appelle les aliens alimentaires.
Et il se passe quoi dans le corps quand on avale un alien, justement?
Alors justement,
ma pâte à tartiner, là, que je mange parfois la nuit même. Je me réveille pour en manger quand les enfants dorment. Il se passe quoi dans mon ventre?
Alors, lorsque nous mangeons un alien, donc tout le monde pense que la galette de riz soufflée ou les pâtes blanches peuvent être digérées par notre estomac. Malheureusement, non. Notre tube digestif n'est pas 2.2. Il n'a pas évolué. Il est toujours primitif. Donc, si vous lui donnez des pâtes complètes, il va les manger. Si vous lui donnez des pâtes blanches, il ne va pas savoir si c'est un sucre lent ou un sucre rapide. Donc, il va le stocker. Mmh. Et alors, en plus, s'il est mal combiné, aïe, aïe, aïe.
Je mange tout seul, moi, la pâte à tartiner, ça va, non? C'est pas bien, je combine avec rien d'autre.
Alors ça, malheureusement, la pâte à tartiner, elle est faite avec du sucre transformé.
Et, oui.
Et ce sucre transformé n'est pas reconnu par votre tube digestif. Mmh. Ce qui va faire que 2 à 3 heures plus tard, ben vous avez très, très, très faim.
Oui.
Donc, lorsqu'on mange du sucre transformé, on crée des fringales 2 à 3 heures plus tard.
Jimmy ?
Et donc la clé d'une bonne digestion et par extension peut-être d'une perte de poids, c'est d'éviter une association entre certains aliments qui ne seraient pas contre-indiqués mais qui poseraient problème à la digestion.
Exactement, des mauvaises associations. On sait que jusqu'à l'âge de 30 ans en moyenne, tout le monde peut digérer tout, entre guillemets. Après, il peut y avoir quelques personnes qui ont quelques problématiques de santé, mais si on prend une femme, un homme sans problème de santé, on peut digérer de tout jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après 30 ans, notre tube digestif, son mode d'emploi évolue.
C'est ça qui vous est arrivé, Jimmy, vous avez eu 30 ans. Ça vous a foutu en l'air.
C'est vrai, ça m'a foutu en l'air ces 30 ans-là. Où sont mes 20 ans là ? C'est pas possible.
Et lorsque le tube digestif change, on ne peut plus, par exemple, raisonner en calories ou en peser des aliments. Les gens vont peser les aliments, vont calculer les calories. Mais ça veut dire qu'ils ont pris comme postulat de départ que tout ce qu'ils vont mettre dans la bouche va se transformer en nutriments. Alors que c'est faux. Après 30 ans, tout ce qu'on mange comme calories ne se transforme pas en nutriments. On en garde un petit peu en stockage. Donc il faut bien combiner pour ne pas stocker.
Mais si on mange des bons aliments, donc des choses qui viennent des champs, mais qui ont parfois, par exemple, des légumes avec des pesticides, c'est des bons aliments au départ, mais ils contiennent des produits chimiques dessus. Qu'est-ce qui va se passer dans mon ventre ?
Alors, ça va faire des digestions très, très, très lentes. L'estomac ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de cette digestion et il va créer ce qu'on appelle la masse indigeste. C'est votre futur stockage, ce qu'on appelle la cellule adipeuse, la cellule de
c'est
gras.
C'est des bourrelets sur le bidon, quoi, c'est ça.
Voilà, exactement. Et lorsque les légumes sont remplis de pesticides, au lieu d'aller se ruiner à les acheter bio, parce que tout le monde ne peut pas acheter bio, on peut les mettre à la vapeur. À la vapeur, ça fait tomber tous les métaux lourds. Et donc, on arrive à avoir des légumes bio à la maison juste en faisant une première cuisson à la vapeur.
Ah oui, c'est intéressant. Jimmy ?
Et donc, même si on fait attention qu'on achète bio ou qu'on les cuit à la vapeur, si on prend de bons aliments mais qu'on ne les mange pas au bon moment de la journée ou qu'on associe deux bons aliments ensemble, ça pose aussi problème.
Exactement. Par exemple, on parle souvent des vertus de l'avocat. On dit que l'avocat est un aliment très riche qu'il faut consommer.
C'est délicieux, en plus.
Exactement.
Ah oui. Dites-moi, est-ce que j'en mange beaucoup ?
Moi, je suis la première à le conseiller. L'avocat, c'est très riche en nutriments, en vitamines. Il est excellent.
Jimmy, il l'aime sur du pain avec du citron.
Ouais, mais l'avocat, pas avec quoi ? Avec...
Alors, l'avocat sur du pain complet, on va en tirer tout le bénéfice. L'avocat sur du pain blanc avec du citron, on n'en retire aucun bénéfice.
Il va directement dans les cuisses. Dans le ventre.
Voilà. Chez l'homme, il va dans la ceinture abdominale, et chez la femme, il va au niveau des hanches.
Merci de me dire que je fais n'importe quoi depuis quelques temps, mais d'accord, non, mais c'est intéressant.
Donc, on peut faire n'importe quoi jusqu'à 30 ans, après, il faut se reprendre, hein,
c'est ça.
C'est ça, exactement. D'accord. Et les enfants, on s'en fiche aussi, il n'y a pas
d'association. Alors, les enfants, ils doivent faire toutes les mauvaises combinaisons qui existent pour qu'ils puissent améliorer la capacité digestive de leur tube digestif. Donc, chez les enfants, on ne se préoccupe pas de cela. On se préoccupe à partir du moment où on a l'impression que notre silhouette change et que notre digestion commence à nous jouer des tours.
Kaina Ossédic, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sur notre plateau aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Kaina Ossédic. Vous êtes donc docteur en biochimie moléculaire et alimentaire et l'auteur du livre La magie de la digestion qui vient de sortir chez Interédition. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler donc des moyens pour reprendre le contrôle de cette digestion qu'on connaît si mal. Ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est que quand on digère mieux, on maigrit. Ça, c'est ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Mais attention, ces combinaisons alimentaires dont on va parler juste après, c'est pas un énième régime. Hein, c'est pas ça aujourd'hui. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça. Les gens ont le droit de manger ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs, quand ils sont dans des régimes, ce sont que des restrictions. Et un être humain, il n'est pas formaté pour avoir des restrictions alimentaires. Nous, on aime manger de tout et diversifier notre alimentation. Donc, on doit rester sur cette manière de vivre. Par contre, il faut apprendre à les associer. Et à quel moment on doit manger tel ou tel aliment.
Votre programme, c'est finalement de mieux digérer. Et un des effets collatéraux, c'est de perdre du poids. Alors que l'objectif initial, c'est juste d'aller mieux au niveau du tube digestif.
Exactement. Mieux digérer, c'était l'objectif de base. Mais on s'aperçoit que lorsque les gens combinent correctement, ils ne vont plus créer ce qu'on appelle la masse indigeste, celle qui crée nos cellules de graisse. À partir du moment où on ne crée plus de masse indigeste, on ne crée plus de stockage, et comme les gens vont être sensibilisés à manger des aliments bruts, des aliments pas raffinés, pas transformés, le fait de faire un petit peu d'effort physique, un peu d'activité physique, d'être actif, ils perdent du poids aussi en parallèle. Donc au final, on retrouve une bonne digestion et des kilos en moins.
Dans votre méthode, je disais, parce que j'allais dire votre régime, mais non, ce n'est pas un régime, justement, il y a une phase d'attaque qui, justement, est un sevrage du sucre. Pourquoi c'est si important ? On se doute, on l'entend souvent, hein, qu'on mange trop de sucre aujourd'hui, et des sucres cachés, etc. Mais pourquoi vous faites ce sevrage d'une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, au début ?
Exactement, suivant l'âge de la personne, suivant son historique de santé, suivant si elle avait fait des régimes auparavant ou pas, s'il y a eu des yo-yo ou pas auparavant, il y a un temps donné précis pour le sevrage de sucre. Tout le monde veut maigrir, tout le monde va à la course à la perte de poids, mais personne ne se demande quel est l'élément principal au départ pour ne plus grossir. La base et la clé de ne plus grossir, c'est d'abord de contrôler sa glycémie, son taux de sucre dans le sang. Et ça, les gens ne le savent pas, ce qui est très important. Je dis souvent que nous sommes tous nés avec un réflexe de survie qui est ne pas grossir, parce qu'on dit toujours on a tous tendance à grossir, etc. En réalité, non, on a beaucoup de réflexes de survie qui composent notre corps.
Le dégoût, vous me disiez.
Exactement. L'écœurement était un des premiers réflexes que nous avons lorsqu'on est. On est avec de l'écœurement. Si on mange trop sucré, trop salé, on a un écœurement, on a un signal qui est envoyé au cerveau et qui dit stop, on ne va pas aller plus loin. Par contre, comme on s'est habitué à manger trop de sucre transformé, raffiné et qu'il était partout dans notre alimentation, les papilles gustatives qui sont au niveau de notre langue ont fini par être anesthésiées. Donc plus d'écœurement, donc plus de limites, donc le manger sans fin. Et c'est pour ça qu'à la base, pour pouvoir construire quelque chose qui dure dans le temps, il faut d'abord sevrer ces gens-là. Chez nous, on s'est rendu compte qu'une glycémie inférieure à 0,88 permettait une perte de poids et permettait de plus grossir derrière. Donc notre objectif, c'est ça.
Parce que le but, c'est derrière de ne pas reprendre. Parce que, alors, ce n'est pas un régime, mais dans la plupart des régimes ou des programmes,
exactement.
Voilà, on reprend du poids derrière. Donc normalement, si on suit ce que vous dites, derrière, on ne se reprend pas 5 kilos an après.
C'est cela, parce qu'on explique aux gens que nous, on fait une réelle fonte de graisse. On ne fait pas ce qu'on appelle les chocs alimentaires. Quand on fait des régimes trop drastiques où on exclut tout, on ne mange plus rien, on fait uniquement, en réalité, si on devait le résumer ainsi, c'est on va atrophier les cellules adipeuses. On enlève ce qu'il y a un petit peu au milieu et le reste, il est là, il est atrophié. Et lorsque les beaux jours arrivent, hop, on peut prendre 2-3 fois plus que ce que nous avions comme poids. Alors que nous, ce que nous faisons, comme on va jouer sur la glycémie, on va jouer sur ce taux de sucre dans le sang, en réalité, on va imposer une fonte des graisses.
Mais c'est pas les gens qui sont en hyperglycémie non plus. En fait, vous voulez aller plus bas que ce qu'on nous dit aujourd'hui,
c'est
ce qui est normal. Hein,
exactement, parce que tout le monde me dit « Non, Kaïna, je me suis testée, je suis normale ». En réalité, dans la normalité, il y a aussi une astuce pour ne pas grossir. C'est d'avoir cette glycémie très basse, comme l'avait l'homme Cro-Magnon.
Donc on a dit attention au sucre, mais par exemple, si on veut manger, je sais pas, une banane ou une pomme, on a le droit. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où il faudrait ne pas la manger ?
Alors, tout ce qui est sucre de fruits, il faut savoir que, on dit souvent, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, en réalité, c'est 3 légumes et 2 fruits. On ne doit pas dépasser la quantité de 2 fruits par jour, car c'est du sucre. Ça reste quand même du sucre. Ensuite, plus on souhaite manger du sucre, on va dire, synthétique, industriel, et plus le meilleur moment pour ce sucre-là, c'est après dîner. En réalité, quand on se réveille le matin, on se réveille avec un taux de sucre déjà naturellement haut dans notre corps. Il est là pour checker, réveiller, activer toute notre physiologie. Et plus la journée avance, on réfléchit, on parle, on s'active, et plus ce sucre naturel va baisser, baisser, baisser au cours de la journée. Si on le laissait baisser au maximum, et après cela, on injectait un sucre un peu raffiné, un peu transformé, il ne va pas aller au stockage, car le corps en manquait déjà. Alors que si on l'injecte trop tôt le matin, à midi, ou des fois la grosse crêpe, la grosse tartelette à 17h, bah là, c'est un petit risque quand même.
Docteur, on s'est dit qu'on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Kaïna Oussedik. Vous êtes donc docteur en biochimie moléculaire et alimentaire et l'auteur du livre « La magie de la digestion » qui vient de sortir chez Interédition. Alors, à présent, on va passer précisément dans notre assiette avec vous, avec ce qu'il faut faire et ne pas faire comme association entre les aliments pour bien les digérer et, cerise sur le gâteau, bien sûr, maigrir. Alors, on va commencer par deux familles d'aliments qu'il ne faut pas consommer, absolument pas dans le même repas, les amidons et les acides. Alors, de quoi on parle précisément ?
Alors, on parle de la fameuse cerise sur le fameux gâteau. Le gâteau est un amidon, donc un sucre lent, et la cerise, c'est un fruit, donc un acide. Mmh. Donc on doit toujours essayer, je dis toujours ça, la cerise sur le gâteau, c'est une très très mauvaise association.
Donc la cerise, on la met à côté, on la mange le soir avant de se coucher, mais pas en même temps que le gâteau.
Voilà, c'est ça. C'est soit le féculent, soit le sucre lent, soit le sucre rapide sous forme de fruit, mais on ne doit pas associer les deux dans une même digestion.
Alors on dit féculent, mais c'est pas que ça, parce que j'ai vu que ça contenait des choses, c'est amidon, comme les betteraves, moi je savais pas.
Exactement, donc les carottes, les petits pois, les betteraves, les navets.
Tout ça c'est dans la même famille.
Tout ça c'est dans la même famille, c'est ce qu'on appelle un féculent, donc c'est un amidon.
On met jamais par exemple de citron dessus pour vous donner
surtout
vraiment un exemple.
Surtout pas. Voilà. Carotte vinaigrée, carotte citronnée. Alors là, on n'en tire aucun bénéfice de la carotte, donc surtout pas. Ou bien betterave en vinaigrette.
Jamais.
Jamais. Jamais. C'est huile d'olive.
Simplement, avec un peu de sel, éventuellement, et quelques herbes, surtout.
Exactement.
Jimmy, je suis scotché. Est-ce que vous avez d'autres, je sais pas, exemples tout simples du quotidien où on ferait n'importe quoi?
Alors, souvent, quand on. C'est le super exemple qui revient souvent. C'est j'ai été au restaurant avec des amis, on a mangé des pizzas, on a mangé des pâtes, on a mangé du hachis parmentier. Et là, pour la fin, je voulais faire vraiment très light. J'ai mangé très riche, je voulais faire très light. Alors la question c'est qu'est-ce que vous avez pris au dessert ?
Une salade de fruits.
Voilà, j'ai pris une salade de fruits. Et bien la salade de fruits, peut-être sur le plan calorique, c'est pas calorique, mais sur le plan combinaison, c'est une catastrophe.
Et vous allez adorer Jimmy parce qu'elle dit qu'au restaurant, quand on a mangé tout ce qu'elle a dit avant, le mieux finalement c'est la mousse au chocolat derrière.
Mais oui, je vous jure.
Mieux vaut une mousse au chocolat après le restaurant, après ma pizza par exemple.
C'est ça, vaut mieux une mousse au chocolat après la pizza qu'une salade de fruits.
Vous êtes estomaqué, je vois.
Je suis scotché, je sais pas comment.
Donc on peut bien manger, se faire plaisir et garder sa silhouette.
Donc si je mange une pomme après un repas qui contenait des pâtes ou du riz, là c'est la cata. Mais la pomme, donc on la mange combien de temps après du coup? Parce que vous avez dit qu'il faut l'éloigner du repas. Mais
exactement.
Je sais pas au bout de combien de temps je peux la manger. Est-ce qu'à la collation de 16 heures, je peux manger ma pomme ou c'est trop tôt?
Parfaitement, parfaitement. On peut la manger à la collation de 16 heures. D'ailleurs, il y a eu une période dans les années 80 où on rentrait pas dans ce phénomène de combinaison encore alimentaire et on disait souvent aux gens mangez vos fruits en dehors des repas. Parce que tous les repas étaient constitués de féculents et d'amidons. Et donc, pour ne pas faire de mauvaises associations, on conseillait aux gens de manger le fruit en dehors.
Parce qu'il y a un repas où il n'y aurait pas d'amidons, du coup, et où je peux manger quand même un fruit.
Exactement.
À la fin. Lequel, par exemple?
Par exemple, si je fais une poêlée de haricots, champignons,
avec une entrecôte,
du poulet, peu importe quelle protéine.
Là, je peux prendre une pomme à la fin du repas.
Exactement. Mmh. Voilà.
Vous avez compris, 10 000 principes?
Pas de féculents, fruits.
Oui. Mais du coup, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, le citron avec la carotte, ça ne marche pas. Mais du coup, la vinaigrette, ça pose aussi problème.
Exactement. Tout ce qui est acide...
Le vinaigre, vous l'enlevez ou gardez que l'huile d'olive.
C'est ça. Tout ce qui est acide ne peut pas se combiner dans un même repas où vous avez des amidons, donc des féculents ou des légumes
et
racines.
Le poisson avec le citron?
Ça marche très très bien, mais dans ces cas-là, à côté, il ne faut pas le riz.
Pas de pommes de terre avec le poisson, vous allez manger avec des haricots verts par exemple.
Si on a mis du citron sur le poisson et qu'on a mangé du riz avec, pas bon.
Stockage au niveau de la ceinture abdominale pour les hommes.
Vous imaginez, alors que c'est juste un petit poisson
avec un peu de citron. D'accord, ok. Donc les salades, juste de l'huile d'olive.
Comment on peut les assaisonner autrement d'ailleurs que
alors,
juste
souvent,
de l'huile d'olive?
Alors voilà, exactement. Alors souvent, maintenant on a vu leurs petites apparitions un peu partout dans plusieurs magasins. Au départ uniquement les magasins spécialisés, mais maintenant un peu partout. C'est des petits bouillons de fines herbes.
Oui.
Avant on avait des bouillons de poule, des choses comme ça.
Ça existe même en bio d'ailleurs.
Exactement. Et maintenant, on a des spéciales bouillons fines herbes pour les gens qui ne supportent pas l'acidité ou qui ne peuvent pas manger acide. Ces fameux bouillons ail, fines herbes, persil, coriandre, etc.
Bon, alors, je ne vais pas mettre un bouillon dans ma salade directement, j'en fais une sauce avec quoi?
Exactement. Vous prenez un peu d'eau tiède, vous mettez la moitié du bouillon à l'intérieur, vous le diluez, ensuite vous rajoutez de l'huile d'olive, de la ricotta, un fromage blanc en plus, etc.
Vous avez vu, elle est chargée, son assaisonnement, il a l'air bon. Hein
Oui, avec plein d'épices et on met ça sur nos légumes. Donc, c'est une manière d'assaisonner sans vinaigre et sans citron.
Jimmy.
En parlant de sauce, moi j'adore le ketchup, les mayonnaises industrielles, là, celles qu'il ne faut surtout pas prendre. J'adore ça, le goût,
c'est extraordinaire. Les aliens alimentaires.
Mais ouais. Ça, c'est pas bon non plus.
Alors, tous les aliens alimentaires sont acides. Quand on parle de ketchup, de sauce soja.
J'en mets beaucoup, j'en mets un petit peu de ketchup.
Mayonnaise,
comme ça.
Toutes ces sauces-là.
Même la moutarde, je crois.
La moutarde, contiennent tous un conservateur. Ces sauces-là ne sont pas vendues sans conservateur. Et donc, le conservateur qu'on utilise de base en agroalimentaire, c'est l'acide. Tout milieu vendu dans les bocaux, dans les boîtes.
S'il fait sa mayonnaise maison, c'est pareil. Si elle est maison, la mayonnaise.
S'il ne met pas de moutarde et de citron.
Ah ouais, bon, il ne saura pas la faire de toute façon.
Non, je ne le ferai pas de mayonnaise maison. Regardez, donc, vous connaissez bien.
Il faut faire attention parce que les sauces sont acides. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de communautés scientifiques qui disaient qu'il fallait arrêter d'acidifier comme ça notre alimentation.
Il y a aussi dans votre méthode ce qu'on appelle les aliments neutres. Ceux-là, on peut y aller tranquille. C'est quoi les aliments neutres?
Alors, les aliments neutres, c'est les légumes verts. On peut commencer par là. Donc, c'est tout ce qui est haricots verts, tomates, courgettes, épinards, brocolis, la famille des choux.
On peut les associer avec tout ce qu'on veut.
Eux, on peut les associer avec tout ce qu'on veut. Il y a également ce qu'on appelle les protéines de second degré. Souvent, les gens mettent toutes les protéines dans le même sac, alors que chimiquement, c'est faux. Les protéines de second degré, c'est ce qu'on appelle les fromages, les œufs. Eux n'ont pas la même complexité anatomique que la bête, que le poulet, etc. Donc, eux également, ils sont neutres. Et eux aussi, on peut les associer avec tout ce qu'on veut.
Le fromage, c'est une bonne nouvelle. Jimmy ?
On sera d'accord que la pizza, c'est interdit ?
Non, pas du tout. La pizza 4 fromages, la pizza aux légumes, vous pouvez la manger le soir sans aucun souci.
Sans huile piquante.
Sans huile piquante, parce que c'est une sauce vendue dans le commerce, donc avec un conservateur, donc acide.
Voilà, mais la pizza, allez-y, hein, une entière, 10
minutes. Une pizza, une mousse au chocolat. Je sens que vous allez vous faire plaisir ce soir.
Vous avez envie d'aller sur ce régime qui n'est pas...
Mousse au chocolat, mais que demande le peuple ? Franchement, il y avait le Covid qui passait par là, mais là, vous m'avez gay.
Allez, le vin aussi, on a le droit, je crois, c'est neutre. Mais alors, pas tous les vins. Le rouge, mais pas les autres.
Totalement. Le vin rouge, c'est...
Bon, après, avec modération pour d'autres raisons, mais...
Exactement. Ouais. Le vin rouge est un vin où la totalité du raisin s'est transformée en alcool. Donc, il n'y a plus de traces acides. Alors que les champagnes, les vins blancs, les rosés, tout ce qu'on pensait pas calorique, ceux-là sont acides et donc vont induire un stockage.
Mais le vin rouge, c'est neutre. D'accord. Jimmy ?
Dernière question. Cru ou cuit, qu'est-ce qui est mieux que les aliments crus ?
Exactement. Alors, très bonne question, parce que cru, cuit, on entend de tout.
C'est la mode du cru.
Voilà.
Hein, ouais.
C'est la mode du cru, mais malheureusement, les bactéries qui peuplent encore une fois notre tube digestif au jour d'aujourd'hui n'aime pas trop le cru. Il s'est adapté. Il est en 2020 et il n'est plus à l'époque de Cro-Magnon. Donc moi, j'incite souvent les gens à manger cuit, surtout les gens qui ont des problèmes de diabète, de cholestérol, de thyroïde, là où les digestions sont un peu plus paresseuses.
Merci beaucoup docteur Oussedi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je suis sûre qu'il y en a, sur les combinaisons alimentaires qui permettent une bonne digestion et même de maigrir, hein, je rappelle votre livre, La magie de la digestion chez Interédition. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur ces petites bestioles que nous détestons tous, les poux. Savez-vous pourquoi d'abord ? À quoi ça ressemble en fait vraiment un poux quand on s'approche un petit peu ? Comment les repérer sur la tête de nos enfants ? Ou la vôtre d'ailleurs, hein, parce que quand les enfants en ont en général, on en a aussi, sauf quand on n'a pas de cheveux comme le docteur Jimmy Mohamed. Savez-vous comment s'en débarrasse ? Benjamin Lévesque a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Quand j'étais petit, j'avais souvent des poux parce que je baladais souvent en fait avec une capuche.
Les poux, pour moi, je comparais ça à des puces. Ça a vraiment la même forme. Ça saute pas pareil. On les voit pas forcément.
Bah, les poux, c'est des petites bêtes qui bougent sur le crâne, sous les cheveux. J'ai bien connu ça avec mes enfants et c'est très désagréable. Moi, ça me dégoûte.
Comment je pourrais décrire ça ? Bah, déjà, moche comme un poux, je pense que tout est dit un petit peu.
On se sent même un peu sale, alors qu'au final, apparemment, les poux, ça va que sur les cheveux propres.
C'est des petites bêtes, hein, mais qui s'accrochent au niveau des cheveux et ça pond énormément d'eux, ça se propage et c'est l'horreur.
Et c'est comme les morpions, en fait, tu te dis autant tout raser.
Je crois que maintenant, on peut aller dans des centres style centre de coiffure où ils utilisent des sortes de séchoirs très violents. Donc on peut y arriver, éventuellement on peut compléter par des comprimés.
Jimmy, les poux, alors c'est un vaste sujet qui revient bien sûr à chaque rentrée. Catherine Blanc qui vient de rentrer dans ce studio nous le faisait remarquer. Elle nous disait, vous n'en avez pas parlé l'année dernière. Mais Jimmy, c'est pas qu'en septembre les poux malheureusement.
Oui malheureusement c'est toute l'année, c'est un peu comme le Covid, hein. C'est un peu bizarre, on en parle tout le temps. Mais ils pourrissent effectivement la vie des parents. Alors pour vous décrire ce que c'est qu'un poux, je sais qu'on vous rêvez tous
moi,
de
savoir.
Moi, je
n'ai pas besoin que vous me décriviez, je sais exactement à quoi ça ressemble.
Hein. Eh ben, il mesure quelques millimètres. Le vrai nom du poux de tête s'appelle Pediculus humanus capitis.
Waouh !
À ne pas confondre avec le poux de corps, le morbac, le morpion, qui lui, en revanche, est une infection sexuellement transmissible. Et c'est un petit insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit uniquement du sang.
Alors, il est tout petit rikiki, vous nous l'avez bien décrit, mais pourtant, il est hyper coriace.
Eh oui, c'est le Captain America des insectes, puisqu'il est vraiment très résistant. Il résiste à tout quasiment, l'eau chlorée, au shampoing, aux températures glaciales ou élevées. Comme je l'ai dit, c'est le super-héros. Imagine, imaginez, pardon.
Ouais, j'imagine, vas-y.
Si l'air est toxique, il peut même boucher les 14 orifices qui lui permettent de respirer. C'est pourquoi on a tant de mal à s'en débarrasser.
Il risque rien, lui, avec le coronavirus, pour le coup. Alors justement, comment on s'en débarrasse pour de bon, Jimmy? Parce que alors, bon, tous les produits vendus en pharmacie, honnêtement, je vous avais compris que je m'y connais pas mal. Moi, je trouve que rien ne marche, mais je ne sais pas.
Effectivement, alors tout d'abord, attention avec les remèdes de grand-mère. Déjà, on ne rase pas la tête d'un enfant si jamais
non,
il a des poux.
Bien sûr.
Les conseils avec la mayonnaise, les huiles essentielles, voilà, ça ne marche absolument pas. Vous pouvez acheter des insecticides ou des produits qui sont dits asphyxiants, qui sont vendus en pharmacie, mais malheureusement, ils ne sont pas efficaces à 100%, d'autant qu'il faut en plus refaire des cures une semaine après. C'est long, c'est fastidieux. Et donc, il existe un traitement possible qu'on donne sous forme de médicament pour lutter contre les poux qui résistent au traitement conventionnel.
Alors, c'est quoi ce médicament miracle? En réalité, je sais très bien ce que c'est. Hein. Mais ce n'est pas indiqué pour tout le monde, attention.
Exactement. Hein. Alors, c'est un médicament qui est hors AMM, hors d'autorisation de mise sur le marché. Donc, vous n'allez pas chez votre médecin demander ce traitement au moindre poux. C'est à réserver pour ceux qui ont des poux vraiment résistants. Et ce traitement s'appelle l'ivermectine. Et une étude parue dans le New England montrait qu'après deux traitements par ivermectine à un intervalle de 7 jours, 95% des patients traités étaient débarrassés, alors que 85% des patients qui étaient traités avec un autre insecticide, un autre traitement, eh bien, obtenaient le même résultat. Donc, c'est un traitement qui est beaucoup plus efficace. Mais encore une fois, c'est réservé au cas par cas.
Pour pas que ces bébêtes deviennent résistantes à ces trucs-là, il vaut mieux pas que tout le monde les utilise, effectivement. Jimmy, le plus efficace, c'est le peigne à poux. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus.
Exactement. Et puis, il y a un dernier petit conseil qu'on peut vous donner. C'est si jamais c'est le docteur Isri, qui est parasitologue à Avicenne, nous disait: il n'est inutile de vouloir se débarrasser de toute la literie. Regardez, lorsque vous avez des poux, vous n'en voyez pas.
Se débarrasser, enfin la laver à 70 degrés.
Souvent, on a envie de la brûler, on a envie de s'en débarrasser. Ben, ça ne sert strictement à rien. On n'a jamais vu de poux sur un oreiller ou sur une literie. Donc ça, c'est une mesure inefficace. Traiter les cheveux et ceux de toute la famille, ça devrait suffire.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle entre dans le studio, enfin elle était un peu rentrée tout à l'heure et puis elle est sortie, puis elle est de retour. Bonjour Catherine Blanc.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je vous voyais danser sur Madonna sur
oui,
votre
j'adore.
Chaise.
Vous ne pas s'empêcher.
Oui, vous me connaissez très bien.
Bon, Catherine... Il était raide comme un piquet, je vous assure, c'est ça la vérité.
Catherine, on va répondre aujourd'hui à la question de Florent. Je vous la lis, ça fait un an et demi que je suis avec mon copain. Tout se passe très bien au quotidien. L'autre jour, ma meilleure amie m'a demandé si j'étais amoureux. Je n'ai pas su lui répondre. À partir de quand on sait que l'on est amoureux, Catherine? C'est quoi être amoureux d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'on sait le qualifier?
Alors c'est compliqué effectivement, c'est pas une question simple parce que on pourrait dire que c'est une émotion forte liée à l'autre et le besoin de voir l'autre, de se réjouir d'être en sa présence. Et évidemment qu'il y a deux possibilités, ou c'est je suis amoureux parce que sans l'autre je ne peux pas faire, je ne peux rien faire, ce qui est une version de l'amour qui avoisine une certaine dépendance, ou au contraire je suis amoureux parce que je me réjouis que l'autre existe, j'ai découvert son existence et le fait qu'il soit vivant et qui plus est que je puisse partager des choses avec lui m'enchante. Et ça, c'est un amour qui est plus joyeux, qui n'est pas lié à l'obligation de faire l'un avec l'autre, même si on peut le souhaiter, bien évidemment.
Jimmy ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs façons d'exprimer l'amour. On pense naïvement aux adolescents qui dessinent des cœurs, des trucs un peu... Bon, à l'eau de rose, mais...
Enfin, au début, quand on est amoureux, c'est un peu les papillons dans le ventre, tout ça. Mais après, bon, ça ne dure pas forcément des années, ouais. Les papillons dans le ventre.
Alors, les papillons dans le ventre, c'est souvent les femmes qui le ressentiront, qui le traduiront comme ça.
Vous n'avez pas eu de papillons, Jimmy, vous? Ça ne vous dit rien, les papillons
dans le ventre? Dans le cœur.
Après, quand le temps avance, la place, pas un amour différent, mais une expression différente de l'amour. Le fait d'être là pour l'autre, quand ça va bien aussi, quand ça va mal... Il n'y a pas qu'une façon de voir l'amour.
Bien sûr, et puis encore une fois, je crois que c'est l'intime de l'intime. On pense souvent que c'est la sexualité, mais l'intime de l'intime, ce sont les émotions. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens ont beaucoup de difficultés à traduire leurs émotions, à exprimer leurs émotions, une sorte de pudeur. Donc ça serait trop à l'eau de rose, diront certains, ou d'autres qui sont complètement énamourés de tout, du moindre battement de cils et de moindre présence, et puis qui s'évaporent tout aussi vite ailleurs. Donc entre les cœurs d'artichaut et entre les durs à cuire.
Mais là, on ne sait pas trop quel est le problème de Florent. Comment on peut ne pas savoir si on est amoureux? Je sais pas.
Oui, je crois que la question... après, on pourra définir que veut dire mon amour ou quel risque j'encours dans cet amour. Mais poser la question, je ne sais pas si je suis amoureux, c'est presque... comme si on avait été pris par l'autre, pris par l'amour, coincé par l'amour avec des risques, et du coup on s'en protège, on se convainc que non. Mais sinon, c'est comme la jouissance. Vous pourriez me poser la même question sur l'orgasme. Qu'est-ce que c'est que l'orgasme? Quand est-ce qu'on sait qu'on le vit? Ben, quand on le vit, on le sait.
Ouais, et c'est
tout.
S'il pose la question, c'est que c'est pas le cas. Il doit pas être amoureux.
Qu'il a besoin de s'assurer que ce qu'il ressent est légitime et qu'il pourra l'exprimer. Encore une fois, c'est peut-être une pudeur ou simplement l'absence, tout simplement, de sentiments.
Jimmy?
Par exemple, hier, il y avait PSGOM à la télévision et étant donné que j'aime ma femme, je lui ai dit non mais je ne regarderai pas le match pour toi.
Est-ce que ça c'est une preuve d'amour? Il a senti que ça partait mal, il a éteint la télé.
Ouais. Mais non, mais est-ce que quand on laisse les autres choses au profit de la personne, c'est le début de l'amour? Est-ce que c'était une preuve d'amour que de ne pas regarder le match d'hier?
Non, c'était juste que vous saviez très bien comment ça allait finir.
Ou de masochisme. Non, mais vous avez raison. Ça, aimer l'autre, c'est aussi vouloir la part belle à l'autre, c'est aussi vouloir lui rendre la vie douce. Donc c'est aussi ça, mais on peut aussi dans hors cadre. Là, on peut avoir du plaisir à être ensemble et à s'aimer profondément les uns et les autres, qu'on sent qu'on parle d'amour au sens amoureux du terme et qu'on veille les uns sur les autres. Donc c'est au sens large, je pense qu'effectivement, donner de la valeur à l'autre, c'est aussi s'oublier de temps en temps un peu. Oui.
Alors si pour Jimmy, mettre le PSG au second plan, c'est un signe d'amour, est-ce que quand on devient...
Si le PSG était la maîtresse, alors on fout la maîtresse à la porte au bénéfice de la femme, alors c'est une façon de voir
quand
les
on
choses.
Devient un peu jaloux, un peu possessif peut-être, en tout cas, est-ce que ça c'est un signe d'amour?
Ben non, ça c'est encore une fois l'amour dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de je t'aime, je suis dépendant de toi, donc tu dois être ma chose parce que sinon si tu n'es pas complètement tourné sur moi, moi je suis perdue, donc je deviens tyrannique. C'est un peu l'amour qu'ont les tout jeunes enfants, hein, tout petits. Ils sont ils ont un amour tyrannique pour leurs parents et ils sont capables de leur mener la vie dure, d'être extrêmement jaloux d'un petit frère ou d'un petit frère ou d'une petite sœur parce qu'ils ne veulent pas partager le parent, tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que leur propre équilibre en serait amoindri ou en tout cas en grande difficulté.
Ça c'est pas l'amour en tout cas.
C'est une forme d'amour, oui. Mais très immédiat.
Est-ce que le coup de foudre, c'est le fait d'être amoureux? Est-ce que c'est deux choses identiques?
Alors le coup de foudre, tout le monde, d'abord, on peut être très amoureux, on peut être dans une situation énamourée sans jamais avoir ressenti le coup de foudre, puisque comme son nom l'indique, c'est un coup de foudre.
C'est brutal.
C'est brutal et ça peut passer tout aussi brutalement. Mais il y a une sorte tout d'un coup de révélation, comme si l'autre s'éclairait d'un seul coup, de façon merveilleuse, avec une aura incroyable. Et peut-être que c'est simplement un enchantement qui...
C'est plus la passion, c'est pas l'amour, alors c'est un truc...
Non, le coup de foudre, c'est un moment précis qui va se suivre d'amour ou d'élan passionné, mais pas nécessairement, qui sera le gage de du plus grand amour pour l'autre. C'est encore une fois des formes différentes en fonction des émotions différentes.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans son rendez-vous, nous ferons un point sur l'épidémie de coronavirus avec un médecin réanimateur en plateau qui nous dira ce qui se passe concrètement dans son service et comment il voit les choses dans les semaines à venir. Mais tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre, ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Mélanie, vous connaissez un peu Mélanie, Stéphane ou pas?
Oui, un petit peu maintenant.
Moi je la connais encore mieux que vous. Et je peux vous dire qu'il y a un truc qu'elle aime bien faire le week-end, elle aime bien jouer à cache-cache.
Oui, ma fille de 2 ans, hein, c'est pas...
Oui. Et ben, oui, c'est pas du tout ce que j'imaginais.
Et ben, c'est le thème de notre émission historiquement vôtre. Alors, cache-cache avec la momie de Nefertiti qu'on n'a jamais retrouvée.
Vous avez joué à cache-cache avec la momie de Nefertiti, je ne comprends rien.
On cherche la momie de Nefertiti.
D'accord.
Deuxième personnage dont on cherche toujours...
Michel-Ange.
Oui, parce qu'il avait disparu dans une cave. On savait qu'il était dans le placard, mais on ne savait pas qu'il était à la cave.
Et puis, je vous parlerai de quelqu'un de plus moderne, le David Copperfield libanais, Carlos Ghosn, évidemment, qui lui aussi était très fort en cache-cache.
Voilà, il raconte l'histoire sans se la raconter avec beaucoup d'humour.
Ça promet, franchement, on sera là, évidemment, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.